d'une ou deux remarques déjà faites, mais qui sont trop importantes pour que on se paye le luxe de les escamoter. Nous avons donc vu deux ou trois points de conclusion, insistant en particulier sur l'importance des définitions des mots de la Bible, sur la part que doit occuper aussi la doctrine dans notre vie, sans laisser bien entendu l'expérience personnelle de côté. Nous avons parlé du squelette et de la chair. Nous aurions pu développer quelque chose que je ne vais pas spécialement développer, à savoir que cette déviation, vous l'avez remarqué avec moi, flatte tous les courants religieux, philosophiques. On l'appellerait aujourd'hui d'un autre nom, on parle de syncrétisme, on parle aussi beaucoup d'œcuménisme. Et c'est une forme d'œcuménisme. Et, disons-le, nous devons faire très attention parce que on assiste dans nos milieux évangéliques aujourd'hui à quelque chose qui était absolument inacceptable il y a même une dizaine d'années en arrière, où les évangéliques, pratiquement à peu de choses près dans leur ensemble, étaient non œcuméniques, de manière claire, se situaient sur ce terrain. Au point même qu'il fut un temps où, dans l'évangélisation de notre pays, on cultivait, hélas, un anticatholicisme virulent, faisant confusion entre le dogme, la doctrine, le système du catholicisme et les pratiquants qui, très souvent, connaissent d'ailleurs très mal leur doctrine. Et à l'heure actuelle, hélas, on est à l'autre extrême. Et nous nous laissons gagner très vite par ce syncrétisme qui s'appelle l'œcuménisme et qui a tendance à vouloir rapprocher sur la base de considérations religieuses, politiques, humanitaire, sociologique et tout ce que vous voulez, mais pas spirituel. Les hommes appartenant au courant général du christianisme dans ses grandes composantes officielles. Alors l'épître aux Colossiens est aussi là pour nous mettre en garde. On n'a pas tous le même bon Dieu, n'est-ce pas? Et nous devons être fermes. Aimer le catholique, mais haïr les doctrines auxquelles il croit. Un philosophe évangélique réputé, Alexandre Vinet, a dit ceci: il n'y a pas de charité pour les idées. Il n'y en a pas. Et autant nous devons aimer ceux qui sont perdus, loin de Christ, parce qu'ils ont, par exemple, dans leur vie, d'autres médiateurs ou médiatrices que Jésus-Christ seul, autant nous devons les aimer, autant nous devons nous refuser à toute ambiguïté. Nous desservons la cause de Jésus-Christ, et nous fermons la porte du salut, mes amis. Ça va jusque-là. Parce que la confusion fait que nous plongeons ceux qui croient de la mauvaise manière dans une fausse sécurité. Alors que nous devons, par le message que nous proclamons associé à la vie que nous vivons, nous devons créer en quelque sorte un climat d'insécurité chez ceux qui se confient dans de fausses divinités. Et quand on sait que la doctrine, notamment du catholicisme, qui n'a pas changé fondamentalement, va jusqu'à flirter de manière extrêmement sérieuse avec des formes subtiles d'occultisme, il faut aussi le dire. Combien il est important que nous soyons clairs et que nous prions en même temps pour qu'il y ait une révélation et une libération de ceux qui sont encore dans ces liens de séduction, le culte des saints, toute la relation avec la Vierge, etc. Tout cela, finalement, s'apparente par certains aspects précis à des formes subtiles de spiritisme, qui sont d'ailleurs même reconnues par certains prêtres. J'ai lu moi-même plusieurs articles, et dont un qui est très clair dans mon esprit, où un prêtre, dans une de nos grandes revues hebdomadaires, reconnaissait qu'il y avait dans le catholicisme qu'il vivait des formes de spiritisme. Le culte avec des personnages qui sont morts est interdit par la parole de Dieu. Et on passe très vite à des formes de dialogue et de recherche très malsaines, n'est-ce pas, qui bloquent et qui nécessitent ensuite toute une thérapie vers une délivrance. Je ne peux pas aller plus loin ici, ceux qui veulent en parler à titre personnel peuvent me voir, mais je tenais à le dire, parce que cet épître aux Colossiens va aussi dans cette direction-là. Et nous avons besoin de mise en garde. Nous aurions pu souligner le fait, mais vous l'avez remarqué, c'est comme le nez au milieu du visage, que cette déviation flatte le cœur naturel, elle est le culte de l'effort propre, notamment le culte du cerveau, qui est fort à la mode, puisqu'il est question du salut par la connaissance. On est perdu par l'ignorance, on est sauvé par la connaissance. Et vous remarquerez, en apprenant davantage sur le Nouvel Âge, que une des pensées axes au cœur du Nouvel Âge se situe au niveau du cerveau. Selon une idée qui finalement ne se vérifie pas du tout scientifiquement, nous utilisons une part absolument infime de notre cerveau, et il faut que nous puissions exploiter ce filon extraordinaire qu'est notre cerveau, de manière à davantage être productif, rentable, etc., n'est-ce pas? C'est ce qui intéresse beaucoup les industriels, les scientifiques, etc., y compris le monde médical, d'où la nécessité de revenir à l'hindouisme et aux autres pratiques qui permettent d'utiliser un maximum de potentialité de notre cerveau. Et un des grands axes du Nouvel Âge se situe à ce niveau-là. Dans le gnosticisme, il y avait aussi d'autres manières, une certaine forme de culte du cerveau. Nous avons pu nous en rendre compte. Et si vous avez essayé hier soir, et dans le fond c'était très bien que les cassettes n'arrivent qu'hier, parce que ça nous a permis d'avoir une étude avant. Moi-même, qui ai déjà vu en tout cas deux fois ces cassettes, je suis allé revoir la cassette pour essayer de me mettre dans votre peau après l'étude du matin. Et pour essayer de faire des ponts entre ce que nous avions partagé le matin et ce que nous avons pu voir le soir. C'est intéressant de voir les corrélations. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu ce type de réflexe, de voir les applications de l'enseignement du matin dans ce qui était présenté le soir. Pour moi, qui l'avais vécu très directement, c'était quelque chose de très frappant. Et je me réjouis aussi pour ce soir, bien que ce qui nous est présenté ne soit pas réjouissant du tout. Simplement deux mots aussi sur l'attitude de Paul. Elle est importante. Primo, Paul vole au secours des disciples vacillants qui ne savent plus où est la vérité. L'apôtre Paul est un homme qui souffre, il est dans la joie, nous l'avons vu, mais en même temps il souffre et il éprouve le besoin d'aider. Il éprouve le besoin d'aider, il est saisi de compassion. Son cœur est étreint quand il pense à ces églises dont cette église de Colosse qu'il ne connaît pas. Mais il éprouve le besoin de l'aider. Et combien il est souhaitable qu'il y ait chez nous cet amour-là, cette compassion-là, qui sache aussi voler au secours, qui ne fasse pas de nombrilisme, que nous ne soyons pas uniquement préoccupés de nous-mêmes, mais que nous ayons soif aussi d'aider ceux et celles qui, autour de nous, sont séduits par les courants de notre temps dans l'Église de Jésus-Christ, surtout les jeunes dans la foi. Surtout les jeunes dans la foi. Combien le démarrage de la vie chrétienne est important pour l'avenir. Et puis, ce qui m'a frappé aussi chez l'apôtre Paul, c'est qu'il remet les choses à leur place sans complexe. L'apôtre Paul n'est pas complexé. Il n'est pas complexé quant à la simplicité révolutionnaire de l'Évangile. Pas du tout. Il ne se laisse pas ébranler, impressionner par ses raisonnements savants. Il se refuse à tout compromis, à tout amalgame, à toute alliance contre nature, à tout sentimentalisme. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, je tenais à vous le dire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Un christianisme qui se veut fidèle aux Écritures, même s'il laisse des possibilités de liberté d'interprétation dans des zones de frange, parce que Dieu est Dieu, qu'il y a des domaines où nous devons reconnaître nos balbutiements, ou notre incompréhension et nos points d'interrogation, mais un christianisme authentique dérange. La parole de Dieu dérange quand elle est véritablement incarnée, quand elle nous imprègne. Je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte. Et il arrive parfois que face au déferlement des connaissances scientifiques, de tous les courants actuels, de tout ce que l'on découvre, le croyant se demande si son vieil évangile ne sent pas un petit peu le moisi. Hein, faut le reconnaître. L'apôtre Paul n'avait pas de complexe. Ce vieil évangile, ce vieux message de la Bible est plus nouveau que tout ce qui va encore venir devant nous demain. Et même s'il y a des choses qui parfois nous troublent, vous savez que souvent, avec le temps, Dieu, dans son amour et dans son humour, montre que c'est bien lui qui a raison. Quand je pense au déferlement de ce qu'on a appelé les courants de haute critique, qui nous ont battu l'autorité de la Bible en brèche au siècle dernier, et les Français ont été là-dedans, et combien, avec les Allemands notamment, pour nous mettre la parole de Dieu en l'air, pour se moquer des Écritures, de certaines civilisations, de certains passages. Et puis Dieu alors a suscité notamment l'archéologie, le cri des pierres. Et on pourrait voir dans toute l'histoire de l'Église, toutes les répliques de Dieu. Les répliques de Dieu au développement des grandes sectes au siècle dernier, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse. Ces grands courants sectaires. Et puis parallèlement, la réplique de Dieu avec les courants qu'on a appelés les courants du revivalisme, le grand élan missionnaire qui a commencé, etc. N'est-ce pas ? C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne perd pas le nord, ne nous inquiétons pas. Et même si nous paraissons rétro, Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Alors ne faisons pas de complexe. Nous sommes véritablement du bon côté. Troisième remarque dans l'attitude de Paul, il reste plus que jamais centré sur la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est le remède à toutes les tendances aux déviations. Je pense au Sadhu Sundar Singh, quand il était invité à Cambridge, et qu'il était assis à table à côté d'un professeur de religion comparée de l'université de Cambridge, que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années. Et le professeur, très intéressé par l'expérience du sadhu, de lui poser cette question, « Mais dites-moi ce que vous avez trouvé dans le christianisme que vous n'aviez pas trouvé dans votre ancienne religion. » Et le sadhu, simplement de lui dire avec beaucoup de déférence, de politesse, « Monsieur le professeur, ce que j'ai trouvé, c'est mon cher Seigneur Jésus-Christ. » Alors le professeur était quelque peu agacé par ce type de réponse, à laquelle il ne s'attendait sans doute pas, et de reprendre pour enrichir son cours sur les religions. « Mais écoutez, non, j'aimerais bien savoir quel principe, quelle doctrine particulière vous a frappé dans ce christianisme comme système religieux, en quelque sorte. Quelle nouvelle philosophie avez-vous découvert ? Que vous n'aviez pas dans votre ancienne religion. » Et le sadhu, sans aucunement se démonter, de reprendre ce que j'ai trouvé, monsieur le professeur, c'est mon cher Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'attitude juste, finalement. Si les gens qui nous entourent ont l'impression que simplement nous sommes les partisans de systèmes, de courants philosophiques, religieux, de doctrines, à quoi ça sert ? Mais si réellement notre vie est imprégnée du Christ, si notre recherche dans la parole de Dieu est une recherche de Dieu lui-même en Jésus-Christ, alors, s'il y a cette imprégnation, nous serons gardés d'aller de travers. Et pas n'importe quel Christ, hein, nous l'avons dit, nous le redisons, pas n'importe quel Christ. Hein, parce que certains disent, il suffit de croire en Christ et puis tout est réglé. Oui, mais pas n'importe quelle crise, pas n'importe comment. Et ma conclusion est pour dire, ne soyons pas les disciples inconditionnels de systèmes ou d'hommes qui finissent par devenir les médiateurs de notre salut. Revenons toujours à la Bible et au Christ de la Bible. Quelqu'un, hier dans la journée, me disait... je crois que je devrais étudier toutes ces religions. Et je lui ai répondu, je souhaiterais que tu étudies sérieusement les Écritures. Parce que c'est par là qu'il faut commencer. Nous pourrions être tentés maintenant d'aller creuser pour mieux connaître l'hindouisme, etc. Bon, ce n'est pas chose mauvaise. Mais il importe que nous donnions à la parole de Dieu la place qui lui revient. Et il faudrait, je pense aussi aux étudiants, là, combien de fois l'avons-nous dit, que nous donnions plus de place dans nos vies à l'étude des Écritures, en communion avec le Seigneur, qu'à toutes nos autres lectures réunies. C'est une chose fondamentale, n'est-ce pas ? Nous sommes imprégnés par ce qui prend le plus de place dans notre existence. Alors nous avons des choix à faire. Nous avons des choix. Et si seulement notre essentielle préoccupation et de donner à la parole de Dieu la place qui lui revient, alors nous pourrons examiner toutes les autres doctrines, religions, etc., avec le recul suffisant, avec la sagesse de Dieu, pour pouvoir faire le tri et en même temps voir les dangers. Voilà ce que je voulais simplement ajouter pour enfoncer certains clous, surtout à cause des mentalités actuelles. Venons-en donc au légalisme et à l'ascétisme. Nous allons procéder de cette manière, tout d'abord, comme nous l'avons fait dimanche et hier pour le précédent danger, évoquer brièvement le problème à Colosse, pour ensuite passer un peu de temps à une actualisation de ce problème, et puis avoir tout un pan de réflexion sur les conséquences du légalisme, ses œuvres, comment il se traduit, de manière à ce que nous puissions aussi le détecter. Et puis, nous verrons enfin, dans un dernier temps, quelles sont les fonctions de la loi de Dieu, de manière à avoir tout de même une attitude juste vis-à-vis de la loi de Dieu. Ceci est très important parce que nous avons facilement de mauvaises définitions du légalisme. Et on peut mettre l'étiquette de légalisme sur des attitudes qui ne le sont pas. Et parfois c'est une chose très facile que de dire à quelqu'un qui vous fait une réflexion pour vous aider, tu es légaliste. Et on le lui dit parce que ça dérange. Je pourrais vous dire, entre autres, d'une manière générale, qu'il est bon de savoir se coucher avec le Seigneur, et qu'il y a des temps de la nuit où le fait de refuser de se coucher fait que nous perdons notre communion avec le Seigneur. Et vous pourriez me rétorquer, tu es légaliste, comme une forme d'autodéfense pour refuser de considérer le problème et de le placer devant Dieu en disant, après tout Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, tu dois être le Seigneur de mes journées, tu dois être le Seigneur de mes nuits, le Seigneur de mon temps. Et je ne veux pas vivre une vie d'indépendance à ton égard. Si tu me dis que c'est l'heure d'aller au dodo, je veux aller au dodo parce que tu m'accompagnes au dodo. N'est-ce pas? Je donne là un exemple parce que c'est un exemple qui brûle tout vif dans la fin de ce camp de famille qui ne voudrait pas être une sorte de retraite de Ruffie, n'est-ce pas? Ce serait quand même dommage. Alors, soyons concrets et pratiques. Nous sommes dans un monde où nous vivons la nuit, beaucoup plus que le jour. Et vous savez, il y a des vies chrétiennes qui ne se construisent pas, qui ne deviennent pas solides, à cause de ce qu'on appelle des peccadilles de ce genre. L'ennemi profite. L'ennemi attaque. L'ennemi nous fait tomber. J'ai eu le privilège pendant une douzaine d'années d'être l'enseignant de camps internationaux de formation et de service chrétien pour des jeunes de 18 à 30 ans, et j'ai vu certains camps être plus que partiellement gâchés par les trop courtes nuits des campeurs. Et en faisant le bilan de ce camp, de dire « Seigneur, pardon », parce que l'ennemi a une part qui ne lui revenait pas dans ce camp. Étant donné que notre esprit et notre âme sont dans un corps, et qu'il importe de ne pas maltraiter ce corps de mauvaise manière, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on passe là-dessus, en pensant qu'on peut marcher avec le Seigneur quand même. C'est faux. C'est faux. Lisez l'enseignement des Écritures sur l'utilisation de notre corps. Et ne dites pas que c'est du légalisme. C'est faux aussi. Voilà, je le dis au passage, simplement. Le problème à Colosse. Il y a en tout cas une double influence à Colosse, plus facile à discerner maintenant, après tout ce que nous avons dit ces derniers jours. Une influence grecque, notamment, se dégager de la matière mauvaise par des pratiques ascétiques. Cela, c'était une forme donc de légalisme. Mais il y a aussi une influence partielle du judaïsme. Vous l'avez, je pense, peut-être même détecté, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament et l'Épître aux Hébreux, la loi mosaïque, elle est sous-jacente, là, dans le verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous avez là tout un langage qui appartenait au judaïsme, à la loi mosaïque. Et il y avait là un entrelac entre des apports tout à fait païens et des apports du judaïsme. Il est question essentiellement de nourriture, de fêtes, de jours à observer. Vous avez les prescriptions du Pentateuque au sujet des animaux purs et impurs dans le livre du Lévitique, les fêtes hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Vous en avez des chapitres entiers dans le Pentateuque, dans Lévitique notamment aussi dans le livre des Nombres. Vous avez mention plus haut de la circoncision, nous y reviendrons parce qu'on découvrira des choses intéressantes. Et bien entendu, les faux docteurs voulaient remettre l'église de Colosse sous le joug de la loi et des traditions humaines. Elles sont mentionnées déjà au verset 8, nous l'avons lu à plusieurs reprises, hein, s'appuyant sur la tradition des hommes. Ces faux docteurs voulaient donc faire dépendre le salut de l'accomplissement d'efforts, des pratiques ascétiques, du faire et du ne pas faire, dans divers domaines de la vie courante. Nous allons simplement lire dans l'Épître aux Galates, qui est centré sur cette question, deux passages, et je vous donnerai dans le cours des explications une sorte de résumé très, très court du problème essentiel des Galates. Hein. Galates 4, versets 8 à 11. autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, que vous êtes entré dans une relation d'intimité avec lui, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, qu'il a accepté lui d'entrer dans une certaine intimité, de vous dévoiler les secrets de son cœur de père en ayant fait de vous des fils, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires, vous les voyez les principes élémentaires dont on parlait hier, auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et puis un peu plus loin, au chapitre 5, versets 1 à 4, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Ça va loin, hein? Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification, l'acquittement, être déclaré juste dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Déchus de la grâce. Oh, l'apôtre Paul était extrêmement sévère. Vous savez, si l'apôtre Paul parlait dans nos églises aujourd'hui, il y ferait du foin. Ah oui, parce que l'apôtre Paul savait être indigné. Et nous ne savons plus être indignés aujourd'hui. Nous ne savons plus être saisis dans notre cœur par le souci de voir Dieu triompher dans nos vies, dans l'Église de Jésus-Christ. Quelle est la première remarque de Paul, toujours dans le problème à Colosse, verset 17. Il dit que c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, on peut ici traduire par la réalité, il y a une souplesse dans les possibilités de traduction, la réalité est en Christ. D'ailleurs, une réalité qui a été même pendant un temps palpable en Jésus-Christ. De toute façon, visible. Il est venu, Dieu est venu corporellement, dans un corps de chair, devenu semblable à nous en toutes choses, hormis le péché. Le légalisme, dans le contexte de Colossiens et de Galates, est donc une régression et non un progrès. C'est un retour en arrière. Le légalisme, c'est lâcher la personne de Christ pour son ombre. Pour son ombre. D'ailleurs, au verset 17, le verset 17 sous-entend que les ordonnances de la loi mosaïque étaient des ombres des réalités glorieuses de la nouvelle alliance. Le terme est utilisé à plusieurs reprises dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 8 par exemple, au verset 5, où il est question de ceux qui exerce la sacrificature, souverain sacrificateur, au verset 5, il est dit que quand ils rendent culte, ils célèbrent un culte, image et ombre, voyez, des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Si vous allez au chapitre 9 et au verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient, par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Chapitre 10, verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Une ombre, une image. qui renvoie à une réalité à laquelle elle ne participe pas elle-même. Voilà ce qui est sous-entendu ici. Il ne faut pas confondre l'ombre avec la réalité. L'ombre, c'est le vide. Vous vous êtes tous amusés, je suppose, surtout quand vous étiez enfant, même parfois quand on est adulte, c'est un peu amusant d'être sur une route et puis de marcher sous le soleil et d'essayer de piétiner son ombre. Et on court après son ombre. Puis on raconte dans l'histoire d'Alexandre le Grand la manière dont il a vu un cheval fougueux qui était indomptable, et il l'a observé et il a vu qu'en réalité, dans la position où il était, il voyait son ombre en face de lui. Et il avait peur de son ombre, alors il a retourné face au soleil et le cheval a été dompté. Nous devons vivre notre vie de disciples de Jésus-Christ face au soleil. C'est-à-dire dans la direction de Jésus-Christ lui-même. Et non pas en quelque sorte dans l'ombre, dans ce qui annonçait, dans ce qui préfigurait dans l'ancienne alliance. La réalité, la plénitude est en Christ. Voilà donc pour le problème à Colosse. Son actualisation maintenant, pour que nous comprenions bien ce que cela veut dire pour nous. Eh bien, le légalisme est une déviation très facile et courante aujourd'hui. Et je dirais que chacun, dans la mesure où il a soif de vivre en Christ, fait, à un moment ou à un autre de sa vie chrétienne, sa crise de légalisme. C'est notamment une des maladies infantiles, au même titre que la rougeole et d'autres, par laquelle tout disciple de Christ en train de croître passe. Alors, il y en a qui en sortent, et il y en a d'autres qui s'y complaisent, qui s'y installent, et qui s'y installent à cause du système, peut-être ecclésial, à cause de leur propre personnalité aussi, à cause d'un problème d'enseignement, etc., n'est-ce pas? Et alors là, c'est dommage, parce qu'ensuite, on devient des fossiles dans le domaine spirituel, on se fige et cela peut devenir absolument terrifiant. Mais si vous essayez, dans la mesure où vous avez un certain nombre d'années de vie chrétienne derrière vous, de penser à votre passé, je suis persuadé que vous pourrez voir dans votre passé ces moments où, par soif de Dieu, par peur de lui déplaire, par désir de vivre dans sa volonté, vous vous êtes attaché à la loi de mauvaise manière. C'est pourquoi l'enseignement que nous voyons est très important. Quelle est la définition donc du légaliste? Le légaliste est l'esclave de la loi. Il pense que sa relation avec Dieu dépend de son obéissance à la loi de Dieu. Il est, comme le dit la Bible, sous la loi. Sous la loi. À l'opposé, vous avez ce que l'on appelle l'antinomien de nomos, qui veut dire loi dans les Écritures, dans le grec. L'antinomos, l'antinomien, qui est à l'autre extrême. C'est celui qui rejette entièrement la loi et qui lui reproche même d'être à l'origine de la plupart des problèmes moraux et spirituels de l'homme. Ça, c'est un des grands courants de l'heure actuelle. Ce fait de vouloir absolument rejeter toute forme de loi de manière, soi-disant, à permettre l'épanouissement de l'être intérieur. Alors, la loi, ça traumatise, ça complexe, ça bloque. Il ne faut surtout rien imposer, par exemple, à l'enfant dans son éducation, de manière à ce que ce qui est si bon et qui est là au fond de lui-même puisse sortir et s'épanouir en un merveilleux bouquet arc-en-ciel extraordinaire et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? L'antinomien. Nous verrons que les Écritures utilisent un autre terme, l'anomia, qui va d'ailleurs dans la même direction, et nous sommes dans ce temps où dans le monde cet état d'esprit prévaut. D'ailleurs, dans le Nouvel Âge, hein, ni bien ni mal, vous avez cet état d'esprit qui se développe fortement. Il existe donc une troisième voie qui maintient l'équilibre, qui maintient une juste attitude à l'égard de la loi. Une troisième voie. Et là, nous sommes au cœur de notre réflexion. Alors, comment se traduit le légalisme? Tout d'abord, le légalisme consiste à ramener le salut dans nos vies à une caricature. Être sauvé, être chrétien, c'est ne pas boire d'alcool, c'est ne pas danser, c'est ne pas aller au cinéma, ne pas regarder la télévision, ne pas fumer. Avoir donc tout un certain nombre de clichés généralement négatifs. Et c'est au contraire avoir donc une vie religieuse et morale, une liste impressionnante d'interdits. Il faut souligner ici qu'il n'est pas du tout nécessaire d'être chrétien pour avoir ce comportement. Il arrive, hélas, que des non-croyants soient plus forts que les croyants dans ce domaine. Définir un disciple de Christ de cette manière, c'est le ravaler au rang de n'importe quel personnage qui, en tout cas, au niveau de la devanture, est un personnage moral. Il m'est souvent arrivé de citer cet extrait de journal qui racontait comment un journal régional avait organisé un concours destiné à découvrir dans le pays le citoyen le plus à cheval sur les principes, le plus vertueux, le plus sobre. Et parmi les lettres adressées à la rédaction figurait celle-ci. Voilà le contenu. Je ne fume pas, je ne bois jamais d'alcool, je ne joue pas, je suis fidèle à mon épouse, je travaille dur, je suis paisible et docile, je ne vais ni au cinéma ni au théâtre, je me couche tôt et me lève à l'aube. J'assiste à l'office tous les dimanches. Il y a 3 ans que je mène cette vie-là. Alors ceux qui lisaient ce courrier devaient s'apprêter à décerner la palme, mais il y avait une conclusion. Mais attendez, quelques petits points. Quand relâché, il était en prison, tout simplement. Bon. Alors, le problème, nous allons voir, c'est qu'il y a des réactions face à cette attitude qui pousse à l'autre extrême. Toujours le problème du balancier dans notre vie. Deuxième expression du légalisme, quand ma vie spirituelle est en souffrance, à la faveur d'un culte, d'une réunion, d'un enseignement, d'un partage personnel avec quelqu'un, j'en viens à rentrer dans ma chambre et à dire « Je dois lire ma Bible davantage. Je dois prier plus longtemps. Je dois être plus fidèle dans les réunions d'église. Je dois donner plus généreusement. Je dois être plus zélé dans l'évangélisation, de manière à ce que cela aille mieux entre le Seigneur et moi. » C'est faux. C'est faux, et pourtant, nous devons le reconnaître, c'est notre première réaction. Je ne veux pas dire que ces éléments soient faux en eux-mêmes. Ce sont des éléments très importants de la vie chrétienne. Mais le problème, c'est que en eux-mêmes, ces éléments n'ont pas le pouvoir de nous vivifier. Être vivifié, cela dépend de celui qui est la source de la vie, c'est-à-dire de Jésus-Christ lui-même. Et même, j'ai remarqué dans mon ministère, dans la cure d'âme notamment, qu'il est facile de commencer par dire à quelqu'un « il faut que tu fasses ceci, 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 cela ». Et puis de voir parfois la personne revenir quelques jours plus tard ou quelques semaines, la revoir des mois plus tard. J'ai bien fait ce que vous avez dit, mais ça a été pire après. Parce que c'est revenir finalement à la loi. C'est revenir à la loi. Et c'est considérer Dieu comme une sorte de marchand, d'épicier, qui donne dans la mesure où on emprunte un certain parcours d'œuvre. Alors bien sûr, les deux sont nécessaires. Je reviens à Christ et je lui demande à lui ensuite, dans ce retour vers la source, vers celui qui ne me repoussera pas, je lui demande de me renouveler, de me vivifier dans mon étude de la parole de Dieu, dans ma participation à la vie de l'Église locale. Et puis ensuite, comptant de tout mon cœur sur lui, sur sa grâce, sur son esprit, je vais mettre ma volonté en action pour aller dans telle direction. Mais croire que la lecture de la Bible est en elle-même une vertu est faux. C'est Christ qui, dans ma vie, donne à la méditation, à l'approche des Écritures, toute la saveur et tout le fruit, toute la vitamine qui va m'aider à continuer dans la bonne direction. C'est d'ailleurs parfois beaucoup plus subtil que ça. Et ça, c'est fort à la mode à l'heure actuelle. Une des formes de légalisme les plus subtiles consiste parfois à mettre sa foi dans un certain nombre d'attitudes comme la louange. On nous invite par certains livres à mettre la louange en action dans notre vie en insistant trop sur le fait que la louange est le secret d'une vie de succès, de bénédiction et qui va plaire à Dieu. Et moi, je suis persuadé que Dieu est terriblement jaloux de sa propre gloire lorsque il plonge, lui, ses regards, et c'est une manière très humaine de dire les choses, sur de tels bouquins. Et c'est faire croire quelque chose qui n'est pas vrai du tout. Mais c'est vrai que la louange occupe une place dans les Écritures et que nous sommes invités à louer sans cesse. Mais la louange en elle-même n'a aucune vertu. Aucune vertu. Et d'ailleurs, le drame, c'est que ceux qui attribuent à la louange en elle-même une sorte de vertu thérapeutique, il n'y a pas besoin là aussi d'être chrétien pour faire ceci, et dans bien des mouvements et dans des sectes, on en fait tout autant, ceux-là vont jusqu'à l'excès, c'est-à-dire qu'ils vous invitent, par exemple, à louer le Seigneur pour tout. C'est-à-dire y compris pour le péché que vous avez commis. Et nous avons des livres dans nos librairies évangéliques dans lesquels la notion de repentance est totalement absente. Louez le Seigneur pour le divorce que vous avez connu, mais la parole de Dieu ne nous invite jamais à cela. Que le Seigneur utilise dans sa générosité absolument extraordinaire des situations de péché du passé qui ont été confessées, déposées à la croix par une authentique repentance. Qu'il les utilise pour en tirer de quoi nous aider à continuer dans notre marche avec le Seigneur, à grandir, parce que même les souffrances qui sont les conséquences de notre péché, quand le péché a été confessé, Dieu les utilise, c'est vrai. Mais cela ne rend pas le péché vertueux. Et ça, c'est un drame, parce qu'on en arrive à des choses non seulement absurdes, mais je dirais qu'ils sont à la limite du blasphématoire. À l'endroit de la croix sur laquelle le Seigneur a porté nos péchés. Et il existe dans nos librairies, je pense à un livre que j'ai lu et relu, que j'ai parfois utilisé en illustration à la fin de cette série quand nous en avions le temps, dans lequel il y a une trentaine d'erreurs doctrinales, dont des erreurs doctrinales graves. Et lorsque plusieurs ont écrit aux éditeurs en leur disant « Mais écoutez, vous ne pouvez pas laisser un tel livre en circulation parce que vous enseignez quelque chose qui est faux. » Parmi des choses qui sont justes, c'est vrai. Et c'est vrai que certains ont été bénis en lisant ces livres. Mais ça n'apporte pas un crédit au contenu total de ces livres. Ce n'est pas parce qu'on est béni par quelque chose qui est boiteux qu'on va souscrire à ce qui est boiteux. C'est là le danger, n'est-ce pas? Puisque j'ai été béni, c'est que c'est bon. Ah oui, Dieu se sert de choses boiteuses, et nous sommes tous des boiteux, il n'y a qu'au ciel que nous ne le serons plus. Hein, Dieu se sert de choses boiteuses et de l'aspect positif pour nous bénir. Et c'est vrai que certains, en lisant ces livres, ont été rendus sensibles au fait qu'ils avaient toujours une tête de cafetière, hein, au lieu d'être une théière. Hein. Ils avaient toujours un visage long, un christianisme triste, désespérant, au lieu de respirer la joie, tout simplement parce qu'ils étaient centrés sur eux-mêmes et qu'ils avaient oublié qu'en Christ, nous avons sujet de nous réjouir. Et que cela demande que nous fassions un effort. Et non pas que nous attendions que ça vienne tout seul. Alors méfions-nous, examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. Surtout dans ce domaine, tout particulièrement. Mettre sa foi dans la prière. Lorsqu'on écrit une lettre de nouvelle, une circulaire, il est très facile de donner une mauvaise impression. Nous avons prié et 10 personnes se sont converties. Mes amis, mais les gens ne se convertissent pas parce que nous prions. Je suis désolé. C'est vrai, mais partiellement. Et il se trouve que Dieu en sauve même sans notre prière, heureusement. Dieu n'est pas heureusement dépendant de notre prière pour agir. Mais nous laissons croire que tout dépend de nous, n'est-ce pas? Et en fait, subtilement, nous nous attribuons des mérites. Nous avons passé une nuit dans la prière, et puis le résultat a été là le lendemain. Et c'est fou ce que l'ennemi est subtil pour prendre le meilleur de Dieu et le caricaturer dans nos vies. C'est subtil. Quand on parle de la chair et des œuvres de la chair, on ne voit que l'aspect négatif. On voit la sensualité, la cupidité, hein, toutes ces fautes qui sont là comme le nez au milieu du visage. Mais il y a des œuvres mauvaises de la chair qui sont bonnes. C'est-à-dire qui ont acquis certains titres de noblesse parce que c'est apparemment spirituel. Et parmi les œuvres de la chair, il y a la prière méritoire. Celui qui considère parce qu'il a prié longuement, eh bien, Dieu a tenu compte de sa prière parce qu'il a prié longuement pour l'exaucer. Mais c'est toujours la grâce. C'est toujours la grâce qui nous vaut la faveur de Dieu dans nos actes spirituels. Mais les œuvres se glissent absolument partout et nous pensons pouvoir porter des médailles. Mais mettre sa foi dans la foi. C'est facile de mettre sa foi dans la foi. Et vous avez des ouvrages qui évangéliques, là aussi, à nouveau, qui sont sur nos comptoirs et qui nous invitent à mettre notre foi dans notre foi. Et le résultat, c'est que quand ça ne marche pas, quel flot de culpabilité aussi. Que de division dans les églises. Mettre sa foi dans sa foi. Est-ce que notre foi a une vertu quelconque? Seigneur, augmente-nous la foi, disaient les disciples à Jésus. Et Jésus leur répondait, mais si vous aviez une foi toute petite, C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Une grande foi, ça ne veut pas dire des kilos ou 2 mètres, non. C'est une foi bien placée. En fait, ce qui est important, c'est pas ma foi, c'est l'objet de ma foi. C'est lui qui est important. Et ça m'évite ce problème de l'orgueil dans ma vie, quand je considère que finalement, ce qui est important, c'est, c'est celui en qui je mets ma confiance. On utilise souvent un billet. Prenez un billet de 100 francs. Est-ce qu'il en lui-même, il a une valeur? Et il a la valeur de sa fabrication et de la matière. C'est tout, ça s'arrête là. Mais ce qui donne la valeur, c'est sa contrepartie qui doit normalement, dans un pays en bonne santé, exister à quelque part. Notamment dans la monnaie étalon, qui est l'or, pour le moment. La foi, c'est la même chose. Et Dieu préfère les balbutiements d'une foi qui s'appuie sur le Seigneur, en disant, écoute Seigneur, je viens à toi, viens au secours de mon incrédulité, hein. Je viens à toi, mais c'est à toi que je regarde. Et c'est à toi que je veux rendre gloire. À celui qui est centré sur sa foi à lui. Alors là encore, lisons les livres et puis regardons s'ils sont bien centrés. Bien centrés sur Christ aussi, ou si finalement des aspects très spirituels se manifestent comme des idoles en réalité. Vous voyez, la foi, la prière, la louange et tant d'autres aspects. Je dirais même la lecture de la Bible. Il y a une forme de bibliolâtrie, n'est-ce pas, qui consiste à placer la Bible comme un écran entre Dieu et nous. On peut lire la Bible par légalisme dans un esprit de compétition et que sais-je encore. Comme si la Bible en elle-même avait une vertu quelconque. Ah, mes amis, vous savez combien de professeurs en théologie qui sont des libéraux finis et qui ne croient pas un seul instant que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est Dieu lui-même, etc., connaissent la Bible mieux que bien des croyants. Là encore, quand je m'approche de la parole de Dieu, tout dépend de l'esprit dans lequel je m'approche de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi quand on médite les Écritures, quand on les murmure, dit le texte original, l'approche de la méditation du matin est importante. C'est l'esprit dans lequel je m'approche. Est-ce que je m'approche simplement pour accomplir mon petit devoir sacré au même titre que tout à l'heure je vais casser la croûte, hein, au petit déjeuner? Est-ce que je le fais pour avoir la conscience tranquille, pour que Dieu me dise « ça va, t'es un brave frère, une brave sœur » Ou est-ce que réellement il y a une juste disposition? Comme le disait quelqu'un, est-ce que je composte? Est-ce que c'est composté, hein? Est-ce que je composte? Clac, c'est fait. Le contrôleur peut passer. Ou bien est-ce qu'il y a vraiment la relation avec le Seigneur? Je voudrais terminer en disant donc que le retour à Jésus-Christ est la seule vraie solution. Il est la vie et il donne la vie. Et peut-être que Dieu voudrait nous inviter pendant la fin de ce camp à revenir à lui, pour que toutes les autres choses puissent retrouver leur juste place. Toutes les autres choses sont importantes, mais découlent de ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Un homme de Dieu a dit ceci: « Supposez deux hommes voulant avoir un arbre chargé de fruits. L'un attache les fruits à l'arbre, c'est là la religion du légalisme. Tandis que l'autre plante d'abord un arbre qui produit naturellement des fleurs puis des fruits, c'est là la religion de la grâce ou de la liberté. » Et je pense à ce prédicateur de Pentecôte qui a dit des choses remarquables et qui a écrit des choses remarquables, Donald G. Et Donald G, quand il était enfant, si je me souviens bien, pas tous les détails hélas, allait à Londres, et là où il vivait à Londres dans sa famille, et il avait décidé dans un quartier de Londres de planter des pieds de tomates dans une arrière-cour qui n'était guère illuminée de soleil. Et chaque jour, bien sûr, il allait voir comment on fait. Je pense à une de nos filles qui n'est pas là, mais qui a fait la même chose et qui avait fortement envie de tirer pour que ça pousse plus vite, hein. Et puis, ses parents, je ne sais pas qui, de sa famille, le voyaient rentrer parfois tellement désolé parce que ça ne sortait pas comme ça aurait dû, ça végétait. Et puis un matin, il a eu la surprise, en allant vers son petit jardin, de voir de magnifiques tomates suspendues là, à ses pieds rabougris, et de loin, son cœur a bondi. Et puis quand il s'est approché, il a été très déçu, parce qu'il y avait les ficelles. Alors c'est ça le légalisme. Avec le légalisme, on voit les ficelles. On voit les ficelles. De loin, on pense que... Hein. Et puis en réalité, quand on s'approche, on remarque qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Que la vie de Jésus-Christ, la sève de Jésus-Christ, ne passe pas par là. Voilà, nous voulons prier. J'aimerais que nous reprenions la lecture de ce que nous avons partagé dans Colossiens 2 ce matin, c'est-à-dire les versets 16, 17 et 20 à 23, puisque nous allons partir de certaines expressions utilisées dans le texte pour expliquer les conséquences ou les œuvres mortes du légalisme. Donc nous relisons Colossiens 2, 16, 17 et 20 à 23. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité est en Christ. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence, une réputation de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Nous allons donc passer un moment maintenant, après avoir vu les deux premiers chapitres de ce troisième danger. Nous avons vu successivement le problème à Colosse. Nous l'avons actualisé sur un plan général, mais aussi dans sa subtilité. Et nous voulons passer du temps maintenant à examiner les œuvres mortes. Comment se traduit le légalisme sur le terrain, dans les expressions, dans les attitudes. Ceci est important pour notre propre vie et aussi parce que nous sommes appelés dans l'Église de Jésus-Christ, pour pouvoir mieux aider à discerner. Et au préalable, j'aimerais vous lire quelques extraits qui seront une illustration de ce que nous allons voir. C'est un courrier, un long courrier, plusieurs d'ailleurs, que je recevais le 6 octobre 1984 de quelqu'un qui voulait sans doute me convertir au légalisme. Et qui me transmettait aussi des échanges de courriers entre un serviteur de Dieu, semble-t-il éminent, et des gens qui lui écrivaient. Et, entre autres, il m'envoyait un échange de courriers dans lequel quelqu'un posait dans sa lettre cette question en disant ceci: « Mon cher Jean, n'essayez pas de trouver de quel Jean il s'agit, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas le trouver. Mon cher Jean, peux-tu me donner quelques précisions sans aucune influence venant d'opinion personnelle à toi, ni de style qui te semblerait davantage adéquat concernant l'allure extérieure du chrétien? La mode païenne actuelle demande d'avoir les oreilles et la nuque des hommes bien dégagés. Les païennes ont souvent une belle et longue chevelure. Vous voyez que ça a changé depuis 84. Où se situe la limite quant au talon aiguille, au perché, qui accentue effectivement le sexe épile, littéralement, et une hauteur de talon qui paraît correcte? La mode actuelle n'est plus aux vêtements moulants mais amples et aux pantalons à pinces. De même, il y a des blue jeans non moulants et des blousons bon genre. Une sœur parfaite par ailleurs, mais qui taille ses cheveux par endroits, resterait-elle collée au sol lors de l'enlèvement? Le Seigneur Jésus a-t-il demandé aux chrétiens de s'en les dire? Avait-il la nuque et les oreilles bien dégagées et des joues et un menton bien rasés? Bon, vous me laissez lire, si vous voulez. je vous comprends. Il faut connaître la volonté de Dieu sans mélange humain. Il faut défendre les intérêts de Dieu et non ses propres convictions. Merci, Seigneur, pour la réponse que tu donnes par la plume de ton serviteur Jean. Ce n'est pas le Jean des Écritures non plus. Il était mort depuis longtemps. Voilà quelques extraits de la réponse. Maintenant, j'aimerais en toute franchise répondre à tes questions du bas de la première page. Si tu me demandais mon opinion personnelle, je ne te répondrais pas. Car cette dernière est morte sur la croix en Christ. Et pour les affaires courantes, je les résous par le secours de sa sagesse. Mais pour toute chose importante touchant sa parole et son royaume, c'est l'expression de la pensée de l'esprit que je dois toujours exprimer. Un jour, il me dit, ta bouche doit exprimer ce que ma bouche exprime par le Saint-Esprit. Si l'on me questionne sur une chose où je n'ai pas sa pensée en moi, je n'ouvre pas la bouche. Avant de donner une ou deux des réponses, j'aimerais vous faire remarquer, parce que c'est intéressant à cause de notre étude de demain, c'est que le légalisme, ascétisme, se mélange aisément avec un faux mysticisme et un illuminisme. En général, on les sépare très soigneusement, mais très souvent, les deux cohabitent. Et le légalisme se déguise sous des dehors de haute spiritualité. Nous l'avons déjà un peu laissé entendre ce matin, c'est très subtil. Quelques réponses. Vous voyez, ce serviteur de Dieu fait croire qu'il est une sorte de médium inspiré d'en haut et qu'il n'exprimera absolument rien de sa pensée. Il veut être sensible, je dirais presque aux ondes qui descendent d'en haut et qui se traduisent dans sa pensée. Alors, je vais vous laisser certaines choses parce qu'on n'en finirait pas. Par exemple, touchant la tenue extérieure, elle n'est que le reflet de la personnalité intérieure, la disposition du cœur. Dieu aime ce qui est beau, mais nous ne devons pas devenir orgueilleux. Lorsqu'on pense que l'on est devenu par Christ fils et fille de roi, l'on ne s'habille pas n'importe comment. C'est vrai. Mais à la mode du ciel, telle que Dieu l'exprime dans sa parole. N'est-il pas dit au psaume 45, verset 11, « Écoute, ma fille, le roi désire ta beauté. » Vous voyez que tout ça est très spirituel. Et on a envie de dire, oui, amen, voilà une personne sensible à la pensée de Dieu. Et puis il part sur une expérience. Laisse-moi te raconter une expérience de l'an passé. On me téléphone depuis le sud de tel pays. J'ai un cher frère chez moi qui veut absolument passer vers toi. C'est un juif converti. Et le Seigneur me révéla les pensées de son cœur. Et en arrivant ici, chez moi, je lui dis, « Au juste, pour quel motif viens-tu me voir ?»« Ah, tu ne me réponds pas. Eh bien, je vais te dire pourquoi. Tu voulais m'accuser de telle et telle chose, mais ainsi parle l'Éternel. » Et il s'est mis à pleurer en confessant ses péchés, que le Seigneur est bon. Puis, pendant que la conversation se poursuivait, le Seigneur me dit une chose bouleversante, qu'il sera peut-être aussi un peu pour toi. Voilà ce qu'il me dit. Prie pour lui, mais prie pour lui car ses cheveux sont trop longs pour avoir part à l'enlèvement. Et puis alors il continue à donner toutes sortes d'explications, tout en discutant d'autres choses. Cet homme me dit tout à coup, tu connais certainement bien le quartier. Y a-t-il là un coiffeur? Car le Seigneur vient de me le montrer. Et je lui donnais le lendemain le texte, enfin un texte. Et tout de suite, j'ai voulu en savoir plus. Et voilà ce qu'il me répondit. Les cheveux, comme ceux de cet homme, qui n'était pas un hippie, comme ceux de la femme, quand ils sont coupés, sont sans prétexte conformes au monde. Et ainsi, les démons ont du pouvoir sur eux et sur elles. Quand je suis en ville et que je rencontre un chevelu, ou un déchevelé, mais alors là c'est difficile à saisir, l'esprit me pousse à pleurer et à prier pour que le Saint-Esprit puisse donner une conduite et un comportement agréable à Dieu. Il n'y a pas longtemps, une sœur âgée m'écrit en lettre express m'annonçant que depuis qu'elle a eu une attaque au cœur, sa fille ne peut plus s'occuper d'elle, elle a dû rentrer dans un home. Là, on lui a dit, nous allons vous couper les cheveux pour nous faciliter la tâche. Elle répondit de lui donner une semaine pour y répondre. Et voici ce que le Seigneur lui répondit exactement. Comment toi, dans ton grand âge, tu veux encore vendre ton droit d'aînesse, te confirmer au monde pour perdre ta place de prémisse? Au cours de mon ministère, j'ai vu que beaucoup de chrétiens n'étaient pas en état de recevoir des exaucements à cause de ces choses. Par le Saint-Esprit, j'y vois un grand obstacle. De même pour les talons hauts. C'est une abomination devant Dieu, comme le port du pantalon chez les filles d'Ève. Et merci Seigneur pour ce qu'il me rappelle en ce moment. Il n'y a pas longtemps, j'avais reçu au moins 20 à 25 paires de chaussures presque neuves de femmes. Et le Seigneur me dit, viens avec ça à la cave et je vais te montrer ce que tu dois faire. Tous les talons qui dépassent 3 cm, tu les coupes en deux avec la hache, afin de ne faire tomber personne dans le péché. La femme est dans la moyenne 7 cm plus courte que la moyenne de l'homme, et à cause de son orgueil, elle veut dépasser cette sainte mesure de 7 pour dominer l'homme et donner cours à des fantaisies pécheresses. Et il me dit aussi qu'un grand nombre de femmes étaient malades du bas-ventre à cause de talons hauts, etc., etc. Vous avez tout un développement, et ça continue ainsi. Alors, la conclusion de la lettre, il y a un post-scriptum. Le Seigneur me rappelle aussi, touchant robes et jupes qui lui sont agréables à m'immoler, car les genoux ne sont pas des articles d'exposition, mais pour ployer devant l'Éternel et lui donner gloire. Et c'est signé, entre autres, le plus petit fils, le plus petit d'entre vous. Et pour ma propre gouverne, celui qui m'envoyait tout ça, écrit... Je saisis l'opportunité pour joindre quelques messages que le Seigneur a donnés à un tel. N'essayez pas de les lire tous à la fois, au risque d'attraper une indigestion. Il y en avait un stock. Allez-y progressivement et ne rejetez pas tout à cause d'un peu de légalisme. Dieu n'est-il pas le plus grand légaliste? Fraternellement en Jésus. Et avec entre parenthèses, à faire suivre s'il vous plaît. Bon, c'est vrai que ça nous fait rire, mais ça pourrait nous faire pleurer, n'est-ce pas? J'ai voulu vous le lire, le légalisme n'est pas aussi, toujours aussi évident, on a vu qu'il se traduit de manière plus subtile, mais j'ai voulu vous le lire pour montrer jusqu'où on peut aller, et aussi pour montrer combien le légalisme est associé à une apparente haute spiritualité qui confine avec tout ce que nous allons voir demain ensemble. Et ceci dit, cette attitude ne justifie aucunement les libertés extravagantes que nous pouvons prendre, hélas, aujourd'hui, au niveau vestimentaire, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a un enseignement des Écritures, mais cet enseignement ne se situe pas là, simplement. Et là, une fois de plus, nous sommes tentés de vivre en réaction par rapport au légalisme et de tomber dans des attitudes absolument excessives et graves, n'est-ce pas? Conséquence donc du légalisme, on a vu comment ça se traduit, on va voir ceci maintenant de manière verbale et claire. Je vais vous articuler 5 traductions du légalisme sur le terrain, œuvre morte parmi d'autres. Tout d'abord, première conséquence du légalisme, il développe, nous l'avons vu ce matin, une mentalité mercantile de marchandage dans nos rapports avec Dieu. Nous l'avons vu ce matin. Cette attitude qui consiste à considérer un petit peu notre Dieu comme un épicier. Et qui consiste à avoir donc, vis-à-vis de lui, cette attitude « je fais ceci pour être béni ». C'est une forme de légalisme. Je pense à un jeune homme qui me disait, justement, quand j'étais pasteur d'église locale, « je vais venir ce soir, comme ça je serai béni ». Je lui dis « mais écoute, premièrement, est-ce que tu es sûr que tu seras béni ? Tu vas peut-être être déçu ». Et secondement, qu'est-ce que tu appelles bénédiction? Peut-être que la bénédiction de Dieu pour toi ce soir, si tu viens, ça va être une tuile qui va t'empêcher ensuite de dormir pendant toute la nuit. Est-ce que c'est ça le type de rapport que tu entretiens personnellement avec Dieu? Et nous devons nous poser cette question-là. Hein? L'Église de Jésus-Christ, les ministères, c'est pas comme une pompe à essence où on veut prendre du super ou du super sans plomb, 95 octanes ou 99, ou bien du... C'est pas ça l'Église de Jésus-Christ. Ainsi, nous concevons la vie chrétienne ainsi, nous sommes complètement à côté de la plaque. Je ne vais pas développer, on en a parlé ce matin. Deuxième conséquence, deuxième œuvre morte du légalisme, le légalisme développe un orgueil spirituel subtil. Et manifestement, avec tout le respect qu'on doit à celui qui a écrit ici, évidemment, il y a un problème d'orgueil spirituel subtil. Vous avez remarqué le langage qui est utilisé. Cette personne se prend pour le nec plus ultra de la volonté de Dieu à l'égard des enfants de Dieu. Ceci transpire du verset 23. Ils ont en vérité une apparence de sagesse ou une réputation de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Un culte volontaire. Le légaliste se confie dans ses ressources propres, dans ses capacités, dans son énergie, dans sa volonté. Et lorsqu'il réussit à atteindre un but, il savoure son triomphe. Et il apparaît aux autres comme un chrétien zélé, capable, sérieux, discipliné. Et on a tendance, quand on connaît mal le légaliste, à lui tirer son chapeau et à dire, mais comment est-ce que je vais faire pour atteindre le niveau où il est? Moi, j'ai l'impression que je suis constamment au but, au problème de mon propre cœur, je dois constamment demander pardon. Pouh, quel géant! Quel géant! Or, le légaliste est aveugle sur lui-même. Le légaliste est aveugle sur lui-même tout simplement parce que le légalisme donne trop facilement bonne conscience lorsque certaines règles ont été observées, alors que peut-être l'essentiel a été négligé. Vous avez ceci dans le langage de Jésus à l'endroit des pharisiens, Matthieu 23, versets 23-24, un chapitre très sévère, et qui nous vise les uns et les autres de toute manière. Matthieu 23, versets 23 et 24, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. » La justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui éliminaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Nous aurions pu prendre dans ce domaine d'autres textes. Il y a Romains 14, versets 17-18, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que le règne de Dieu dans nos vies ne s'occupe pas du manger et du boire. Mais qu'il faut commencer par le bon bout, n'est-ce pas? Et pas de travers. Ça, c'est donc un premier aspect de l'aveuglement sur soi. Puis secondement, le légaliste a une mauvaise conception de la sainteté. C'est ce que Jésus, d'ailleurs, disait aux pharisiens. On aurait pu garder le même texte, puisque ce sont les versets suivants. Toujours dans Matthieu 23, versets 25 à 28. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors, qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Et il suffit d'analyser aussi bien l'histoire du judaïsme que l'histoire de l'Église de Jésus-Christ pour constater cette tendance à avoir de mauvaises conceptions de la sainteté et avoir de la sainteté simplement une conception de séparation négative. Les pharisiens, nous aurons peut-être l'occasion d'y venir, les pharisiens, c'était les séparés, pharash, qui veut dire séparés, n'est-ce pas? Les pharisiens étaient les séparés par excellence. Mais regardez ce que Jésus leur dit. Une séparation qui est toute extérieure, qui est de la poudre aux yeux, et qui ne correspond pas à une sainteté intérieure, la véritable sainteté qui est, c'est vrai, purification d'abord par le sang de Christ, par de l'intérieur, pour s'exprimer à l'extérieur. Là où nous avons tendance à partir du dehors, n'est-ce pas, simplement, et à jeter de la poudre aux yeux de cette manière. Je pense à cette petite fille qui s'appelait Suzanne, qui était dans la voiture de son papa. Elle était sur la banquette arrière et elle était en train de faire des entrechats. Peut-être apprenait-elle en vue d'être un petit rat à l'opéra, et elle était là debout sur la banquette arrière pendant que papa roulait, et puis il était très gêné, si bien qu'au bout d'un moment il a dit: écoute Suzanne, tu sais, c'est dangereux ce que tu fais, assieds-toi si jamais je freine. Suzanne de continuer allègrement ses pas de danse. Alors le papa de prendre sa voix un peu plus grave et de dire: Suzanne, s'il te plaît, tu vas t'asseoir, ça suffit maintenant, pensez-vous. Suzanne, en bonne enfant de 1989, de continuer ses entrechats. Finalement, papa vexé dans son autorité de père de dire: bon, ben maintenant ça suffit, hein. Si tu ne t'arrêtes pas dans l'instant qui vient, tu me connais, j'arrête la voiture et on règle le problème sur le bord de la chaussée. Suzanne s'est installée dans la position du parcours du combattant. Hein. On ne la voyait plus. Papa était ravi, il était heureux, il a réaccéléré sur le champignon, quand subitement, il entend une petite voix, il voit une tête surgir entre les deux sièges avant, n'est-ce pas, juste à son côté. Papa chéri, oui mon amour, tu sais, dans ma tête, je suis toujours debout. Mais ça, c'est notre conception très souvent de la sainteté. Extérieurement, eh oui, on est séparé. Et on peut être dans une position très pieuse au culte du dimanche, extérieurement, on est séparé. Mais dedans, dedans, vous connaissez l'histoire de l'altercation vive d'ailleurs entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et comment Abraham propose à Lot de choisir. Il lui dit: bon écoute, on va pas se battre, il y a des gens qui nous regardent, hein, et puis nous sommes frères. Alors choisis. Et Lot nous dit le texte dans Genèse 13, 10, à regarder. Et il a vu la région de Sodome et Gomorrhe. Et le texte dit qu'il était comme l'Égypte. Or, avant cette histoire, ils rentraient d'Égypte, où ils avaient été expulsés presque manu militari pour avoir trompé le pharaon. Alors, c'est vrai que Lot avait quitté physiquement l'Égypte. Il avait emboîté le pas à Abraham, comme jadis il avait emboîté le pas à Abraham lorsque celui-ci avait quitté Ur-en-Chaldée. Mais Genèse 13:10 est là pour nous montrer qu'il avait bien quitté l'Égypte physiquement, mais l'Égypte ne l'avait pas quitté. L'Égypte était dans son cœur. Et n'est-ce pas, lorsqu'il a vu cette région si ressemblante, c'est son cœur qui a parlé. Et nous nous leurrons parfois, lorsque nous nous figurons que nous sommes spirituels, parce que nous sommes dans une attitude spirituelle, dans un cadre spirituel. C'était le problème des Juifs dans la décadence. C'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Et Jérémie leur dit: mais vous mettez le doigt dans le jusqu'au coude. Ma gloire n'est pas attachée à des bâtiments. Ou la gloire de l'Éternel n'est pas attachée à des bâtiments. La gloire de Dieu, elle est itinérante. Elle bouge. Elle n'est pas attachée à l'institution. Et Israël l'a ensuite connu à travers le prophète Ézéchiel, hein, le grand thème d'Ézéchiel, la gloire de l'Éternel, la beauté de Dieu, ses perfections de caractère et d'œuvre, qui quitte le sanctuaire et qui peu à peu s'éloigne. Alors c'est important ceci pour nous. Alors tout au long de l'histoire de l'Église, ça a continué comme ça. Vous avez eu les anachorètes, bon, tout le monachisme, les ermites dans le catholicisme, les stylistes qui montaient sur des colonnes jusqu'à 10 mètres au-dessus du sol et qui restaient pendant 30 ans. Il y en a un d'entre eux, vous savez, Simon le styliste, hein, plus de 30 ans. Il paraît que même avant de monter sur sa colonne, il s'était enfoui jusqu'au cou dans le sol pendant je ne sais pas à quelle période. Vous avez vu hier soir, hein, celui qui avait la tête. Il y en a qui sont montés dans des arbres. On les appelait les dendrites, dendrones, arbres, n'est-ce pas? Alors, ils allaient pour se séparer dans les arbres. D'autres étaient étaient dans des cages au sommet des rochers et chantaient des psaumes à tue-tête dans leurs cages pour se séparer. Mais il y a eu les choses les plus incroyables qui soient, toujours avec cette idée de se séparer pour être saint. Alors que le problème est dedans. Alors c'est vrai qu'il y a des domaines où nous devons apprendre clairement à trancher dans le vif, extérieurement parce que c'est une aide. Mais de là à adopter une conduite systématique où tout se fait du dehors sans que le cœur y soit pour quelque chose, alors là on tombe dans ce drame du légalisme. La sainteté qui est d'ailleurs en réalité est une mise à part pour le Seigneur. Je suis saint parce que je me jette dans les bras du Seigneur Jésus. Parce que je l'aime à cause de ce qu'il a fait pour moi. C'est comme dans le mariage. Qu'est-ce qui nous aide à vivre d'une manière différente dans le mariage? Sinon, l'amour que nous portons pour notre conjoint. Mais sinon, terriblement difficile d'abandonner sa vie de célibataire, hein, quand on y est bien installé. Il y a des domaines où... Mais quand l'amour est là, quand on peut se consacrer à l'autre parce qu'on l'aime, ça c'est la dynamique d'une vie chrétienne authentique. Seigneur, je t'aime, alors j'ai été mis à part pour toi. Je me consacre à toi. Alors quand la sève de la vie de Christ se développe dans notre être, coule dans notre être tout entier, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme quand un arbre, pendant l'hiver, vous savez que c'est un peu un miracle qu'il y ait des arbres qui traversent toutes les tempêtes de l'hiver en gardant des feuilles mortes. Et puis, qu'est-ce qui fait que les feuilles mortes tombent? C'est la sève qui monte dans les branches, à la résurrection, à cette explosion de vie que représente le printemps. C'est ça la vraie sainteté. C'est cette intimité avec Christ, cette vie de Christ en moi qui va me permettre de peu à peu me dépouiller de toutes sortes de choses qui ne plaisent pas au Seigneur et pas l'inverse. Voilà un deuxième aspect très important. Le légalisme développe un orgueil spirituel subtil. Il est question d'un culte volontaire. Troisième remarque, le légalisme développe la dureté de cœur et l'esprit de jugement ou l'esprit de critique. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, etc. Que personne ne vous juge. Et un des symptômes du légalisme, c'est cette tendance à juger, à critiquer, à imposer sa manière de voir. Celui qui ne fait pas comme moi, c'est un faible. Qui n'a pas de volonté, par exemple. Le légaliste est généralement pointilleux et intolérant. Pointilleux et tolérant, tout simplement parce qu'il fait l'économie de la grâce, parce qu'il ne la voit pas à l'œuvre. Regardez les pharisiens. Ce qui est renversant dans l'attitude des pharisiens, c'est qu'ils ne voyaient pas les miracles extraordinaires que faisait Jésus. Voilà quelqu'un qui était sur le bord d'une piscine pendant 39 ans, dans un état absolument lamentable, une véritable loque. Il se lève sur l'ordre de Jésus en un instant, après 39 ans. Les pharisiens n'ont rien vu. Leur seule préoccupation, c'est que cette guérison a eu lieu le jour du sabbat et que cet homme va se lever et transporter son grabat. C'est terrible quand on y pense. Et combien de fois on voit cela dans les évangiles ? Des hommes qui ne voient plus la grâce de Dieu à l'œuvre tant ils sont obnubilés par la violation d'un commandement. Et encore, en fonction de la manière dont ils le comprennent, puisqu'ils le comprennent mal, ce commandement du sabbat. Alors vous avez Jean 5, 10 que je viens d'évoquer, mais il y a tant d'autres textes, Jean 9, 13 à 16, l'aveugle-né hein, aussi. C'est intéressant de voir comment ils réagissent et quantité d'autres textes. Le verset 20 dira d'ailleurs « Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Vous impose-t-on ? » Enfin, vous avez d'ailleurs là un verbe qui a donné en français le mot « dogme », « dogmatiser ». Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on dogmatise comme cela ? C'est-à-dire qu'on voit des dogmes partout. On voit la loi des Mèdes et des Perses partout. Dans les moindres petits détails, on est là, hein, comme je le disais la semaine dernière, comme le chat qui traque la souris pour lui tomber dessus dès qu'il voit le bout de sa queue. Et le fait, n'est-ce pas, d'avoir une sorte d'attitude de dictature sur les consciences est une source de complexe et de culpabilisation de l'autre. Nous l'avons dit tout à l'heure. Quand on est à côté d'un légaliste, qui vit toujours apparemment sur son 31 spirituel, on dit « mais je n'arriverai jamais à son niveau, il est tellement fort !» Jusqu'au jour où peut-être on va se rendre compte de l'hypocrisie. Jusqu'au jour où on va voir la différence entre le personnage et la personne. Et le légalisme divise l'Église à ce niveau-là. Et j'aimerais venir sur le grand problème des Galates, le résumer très rapidement. Quel était le problème des Galates ? Et c'est ce qui a fait que l'apôtre Paul a dû intervenir avec beaucoup de force. Dans les églises de Galatie, vous aviez deux parties. Vous aviez d'une part des Juifs convertis à Jésus-Christ, qui avait donc un arrière-plan judaïque qui était tourné vers la loi de Moïse. Puis vous aviez d'autre part des païens convertis à Jésus-Christ. Donc des judéo-chrétiens et des pagano-chrétiens. Bien sûr, ceux qui étaient convertis à Jésus-Christ d'origine païenne, ils avaient, dans la plupart des cas, vécu pour pas mal d'entre eux une vie pas très belle, un peu à la corinthienne. Alors le problème, c'est que vous aviez d'un côté les chrétiens d'origine juive qui étaient excités par des faux docteurs et même par certains membres des églises qui disaient « oui, mais il faudrait ajouter la circoncision parce que la circoncision est importante et puis finalement, pas de salut sans circoncision, il faudrait ajouter les sabbats, etc. Hein? » Et donc qui excitaient ces croyants d'origine judaïque à revenir peu à peu au judaïsme et qui en même temps pointaient le doigt vers les croyants d'origine païenne qui, eux, avaient tendance à confondre la grâce avec la crasse, qui abusaient de la grâce, qui faisaient de la grâce un oreiller de paresse. Nous avons été sauvés par le sang de Christ gratuitement, nous avons été acquittés, innocentés, nous sommes déclarés justes, c'est quelque chose de fantastique. Maintenant, youpi, vivons la liberté, vivons n'importe comment. Vous comprenez ? Alors les chrétiens d'origine juive pointaient du doigt les chrétiens d'origine païenne, disant « mais c'est honteux, c'est dégoûtant ce que vous faites ». Et puis ils essayaient de les remettre sous le joug de la loi. Vous savez ce qui se passe quand c'est comme ça. Les croyants d'origine païenne pointaient le doigt sur les judéo-chrétiens, leur disaient « Mais c'est pas possible, comment est-ce que vous osez revenir sous la loi ?» Et on entre dans un cercle vicieux, chacun réagissant par rapport aux excès de l'autre. Les chrétiens d'origine païenne, eh bien, ils vivaient de plus en plus dans le libertinage, dans le laxisme, dans tous les domaines, et les chrétiens d'origine juive vivaient de plus en plus sous le joug de la loi. Alors, vous savez, quand on est dans cette situation, hein, on n'est pas prêt de se réconcilier, on n'est pas prêt d'avoir une vie de santé, les églises explosent. Et c'est pour cela que, heureusement, l'apôtre Paul intervient de l'extérieur, mais connaissant ces églises, et il va s'adresser successivement aux deux parties. Il va s'adresser d'abord aux légalistes, aux chrétiens d'origine juive, parce qu'eux, alors, prêchent vraiment carrément un autre évangile, dans lequel la loi devient salvatrice. Et alors, là, il n'y va pas de main morte, nous avons lu l'introduction, mais ensuite, il se tourne vers les chrétiens d'origine païenne, leur dit, écoutez-vous, faites attention, hein. Les œuvres de la chair s'appellent, et vous avez la liste. Puis le fruit de l'esprit, voilà quel est-il. Alors ne vous mordez pas les uns et les autres. Vous avez tort des deux côtés. Et vous êtes en train de mettre vos églises complètement en l'air, mais si vous continuez comme ça, où l'église de Jésus-Christ va-t-elle aller? Voyez? Alors là, les clans, l'esprit de parti, est souvent le résultat du légalisme dans les églises locales. Quatrième remarque, je dois aller assez vite, quatrième conséquence, œuvre morte, le légalisme développe une mentalité de règlement et de tradition. Le légaliste succombe à la tentation d'ajouter à la parole de Dieu quantité de commandements qui n'ont rien à voir avec elle. On prolonge la parole de Dieu et on fait ce qu'on appelle des extrapolations. On va au-delà, mais on va y revenir demain matin lorsqu'on parlera d'extrémisme doctrinal. Mais je voudrais illustrer ceci justement dans l'histoire du judaïsme. Qu'est-ce qui s'est passé dans le judaïsme qui a amené ce fort courant de légalisme ? Vous savez que au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, dans cette période, il y a eu à un moment donné une influence grecque très forte sur le judaïsme. Et un certain nombre de juifs ont été...